Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour. En moyenne, chaque Français passe 3h20 par jour devant sa télévision. Et les enfants, dont on dit que 50% d'entre eux auraient un poste de télévision dans leur chambre, les enfants la regardent de plus en plus. Depuis quelques années, un certain type d'émissions dites de télé-réalité envahissent les écrans. Mais qu'est-ce que la télé-réalité ? Le téléspectateur est-il en train de devenir un télévoyeur ? Quels sont les enjeux, les risques de ces émissions de télé-réalité ? Tel est le sujet que nous allons aujourd'hui aborder avec mon invité, Damien Leguet, que je remercie d'être venu. Damien Leguet, bonjour.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie.
Vous avez publié un ouvrage qui s'intitule justement « L'Empire de la télé-réalité » et qui est paru aux presses de la Renaissance. Cet ouvrage dénonce justement les méfaits de la télé-réalité. Je peux le dire qu'il dénonce parce qu'il est assez virulent dans le ton. Donc on va parler de ce sujet. D'abord, peut-être faudrait-il dire que vous êtes philosophe, que vous êtes essayiste et aussi critique littéraire, que vous avez publié d'autres ouvrages, et notamment un ouvrage pour dénoncer la face cachée d'Halloween, et puis qu'avons-nous perdu en perdant la mort, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des traditions et des fêtes de la Toussaint. Donc vous êtes un spécialiste quelque part aussi des fêtes traditionnelles de notre pays. Alors, ma première question, elle sera vraiment toute simple, c'est qu'est-ce que la télé-réalité en vérité ? Quels sont les critères qui permettent de dire cette émission est télé-réalité, celle-ci ne l'est pas ? Quelles sont les caractéristiques ?
Alors, je vais juste faire une petite remarque préalable pour essayer d'unifier un tout petit peu ce que vous avez présenté quant à mes différents livres. Je crois que mon sujet essentiel, c'est la crédulité. Voilà. C'est effectivement Halloween, la mort perdue, etc. La télé-réalité semble effectivement des sujets différents. Mais le sujet, le même, c'est cette perte du religieux qui est effectivement le nôtre. Et puis cet envahissement d'une crédulité nouvelle qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit, et avec différents sujets. Donc pour répondre exactement à votre question, qu'est-ce que la télé-réalité ? Disons que la télé-réalité est une variante de la télévision et qu'elle se caractérise par deux, trois éléments. Le premier, c'est d'enfermer des individus tous ensemble dans un même endroit pendant un laps de temps assez long, 2 mois, 3 mois. Deuxièmement, les filmer 24 heures sur 24, soit par la télévision, soit par Internet, qui d'une manière ou d'une autre est susceptible de pouvoir relayer ce que la télévision passe. Et puis troisième principe qui est là aussi significatif, c'est le principe de l'élimination, de l'auto-élimination. Ils sont là ensemble et progressivement, parce qu'il y a des jeux, parce qu'il y a une règle, parce qu'il y a ceci et cela, ils vont s'éliminer pour que finalement, à la fin, un des candidats gagne quoi, enfin selon les cas. Voilà. Donc ça c'est la trame, si vous voulez.
Voilà. Quand on parle de télé-réalité, c'est un peu toujours ce genre de caractéristiques.
C'est toujours, grosso modo, ces trois éléments-là. Rajoutons un dernier élément qui est peut-être le plus important, qui est celui d'individus qui ne sont pas particulièrement célèbres, connus, talentueux, etc., qui sont pris, nous dit-on, par hasard, et donc qui apportent, en même temps qu'ils apportent leur conflit, leur machin, leur, voilà, qui apportent leur banalité, hein, qui apportent ce qu'ils sont dans ce lieu-là.
Voilà, vous dites « nous dit-on » et on reviendra tout à l'heure sur cet aspect de vérité ou de non-vérité de la télé-réalité qui n'a de réalité que le nom. Simplement, quelques chiffres pour bien situer l'ampleur du phénomène. Vous dites dans votre ouvrage que depuis à peu près les années 2001, la télé-réalité est une vague de fond. La machine est lancée, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle se développe, ça prend de l'ampleur, ça invente des nouvelles formules, ça cultive le racolage, ça suscite des confrontation d'ego. Là, je vous cite, on ne va pas citer toutes les émissions. Y en a-t-il beaucoup et est-ce vraiment en train de se développer encore plus ?
Alors, il y en a beaucoup, effectivement, parce que c'est un phénomène mondial. Donc, nous ne voyons qu'une partie de ce phénomène-là. Donc, d'une part. Et deuxièmement, effectivement, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que ce sont des séries. Hein, donc, il y a une version une année, il y en aura une autre l'année d'après. Et puis, comme on se rend compte, ou comme les producteurs se rendent compte que ces émissions-là, d'une manière ou d'une autre, peuvent parfois un peu lasser, donc d'une année sur l'autre, on renouvelle un peu le genre en le présentant un tout petit peu différemment. Donc, c'est vrai qu'il y a une lame de fond en ceci, qu'il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité. C'est une lame de fond en ceci aussi que c'est un phénomène mondial et qui semble prendre de l'ampleur, je ne sais pas, enfin, mais qui semble s'installer durablement dans le paysage audiovisuel. Et donc, ça me paraissait de ce point de vue-là intéressant d'essayer de bien voir ce qu'il y a derrière ces émissions-là, ce qu'elles nous disent et ce qu'elles nous disent aussi de nous-mêmes.
Donc, nous ne sommes pas les seuls en France à subir ce genre de spectacle. Vous faites même dans votre ouvrage un petit tour d'Europe des programmes de télé-réalité. Je vois qu'il y en a partout chez nos voisins. Donc, le phénomène n'est pas limité à l'Hexagone. Il est tout de même quand même américain. Quand vous dites que c'est mondial, est-ce que des pays comme la Corée, la Chine produisent elles aussi des émissions comme cela?
Non, enfin la Chine, non, mais c'est pas américain, enfin, en ceci qu'effectivement les États-Unis, qui sont le principal laboratoire cathodique du monde, donc produisent aussi ce genre d'émissions-là, et avec des variantes dont on pourra parler, mais disons le principal producteur de ces émissions-là, mondialement, c'est une société qui s'appelle Endemol, et qui est européenne, qui a été fondée par John de Mol, qui est un Hollandais, et qui effectivement est parti du principe que l'on pouvait décliner d'un point de vue cathodique une expérience scientifique qui avait été faite, à savoir enfermer comme ça des gens entre eux pendant un laps de temps déterminé et voir un peu quelles étaient les réactions que cela pouvait susciter. Donc c'est vrai que le fait de laisser, d'une manière ou d'une autre, en intervenant peut-être, enfin, de laisser des individus entre eux et de voir, comme dans un laboratoire, de voir quelles sont les réactions que ces individus peuvent avoir les uns avec les autres, est, disons, un élément qui se décline un peu sur toute la planète cathodique.
Alors, Damien Leguet, dans votre ouvrage « L'Empire de la télé-réalité » qui est paru aux presses de la Renaissance, vous dénoncez cette télé-réalité, soyons nets. Vous ne lui trouvez pas beaucoup d'excuses. Oui. Vous la dénoncez comme une menace à trois niveaux. Alors, on va développer, si vous voulez bien, chacun de ces niveaux. C'est une menace pour la société, dites-vous. C'est une menace pour l'équilibre de l'individu. Et c'est une menace pour les enfants et les jeunes.
Oui, je voudrais juste revenir sur cette idée de dénonciation. Il est vrai que dans mon livre, il y a des éléments un peu virulents, enfin bon, mais c'est, me semble-t-il, essentiellement un livre d'analyse, enfin, où j'essaye effectivement...
Oui, bien
voilà,
sûr.
C'est pas un pamphlet, même si tout en temps, sur telle et telle chose, bon. Donc j'essaye, autant que faire se peut, d'analyser ce phénomène. Pourquoi ? Alors, on peut dire, finalement, ce n'est que de la télévision. Ce n'est pas très grave, ce n'est que du divertissement. Bon, pourquoi, me semble-t-il, la télévision a pris une importance significative ? Il me semble qu'elle a pris cette importance-là, d'une certaine façon, par défaut. C'est-à-dire que les modes de socialisation qui pouvaient exister, l'école, la famille, le parti, en France, on a connu effectivement un parti communiste puissant qui avait des modes de socialisation... le parti, l'église, etc. Bon, tous ces éléments-là, d'une certaine façon, socialisaient l'individu, lui apprenaient les règles du vivre ensemble. Bon, tout le monde voit bien, et les sociologues sont là pour nous le rappeler, que ces modes de socialisation traditionnels ont progressivement disparu. Bon, et donc, l'individu se retrouve face à lui-même, et la consommation cathodique en face n'a fait que croître et embellir d'année en année. Donc il m'a semblé, c'est là où je rejoins, il m'a semblé effectivement que un regard sur la télé-réalité ou un regard sur la télévision était une manière de bien comprendre d'une certaine façon le message, les morales, les morales qui étaient transmises par la télévision et qui, peut-être d'une certaine façon, étaient véritablement une pédagogie, une manière un apprentissage pour chacun de nous de la façon dont nous devons, entre guillemets, nous comporter. Voilà. Et donc, il me semble, il y a des sociologues américains qui vont jusqu'à considérer, il faut dire que la consommation de télévision aux États-Unis est beaucoup plus forte qu'en France, mais qui vont jusqu'à considérer que la télévision est d'une certaine façon une deuxième école et qu'elle est sans doute quelque part un troisième parent. Prenons le cas uniquement des enfants en France. En France, un enfant entre 8 et 14 ans va 850 heures par an à l'école et consomme, je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui, consomme ou regarde 1200 ou 1300 heures la télévision par an. Bon, donc on voit bien qu'on est face à quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre du divertissement, mais qui nous dit quelque chose. D'où effectivement, et je rejoins ce que vous dites, mais je me permettais d'apporter ce
bien
petit bémol,
sûr, bien sûr.
D'où effectivement ce regard critique que j'ai à l'égard de la télévision et ou de la télé-réalité, pour des raisons qui tiennent à la fois à l'abandon, peut-être qu'on y reviendra, mais de son projet pédagogique, du projet pédagogique de la télévision, ou du projet culturel de la télévision, mais surtout au fait que, d'une certaine façon, on va caricaturer un peu le propos, mais d'une certaine façon, qu'avons-nous en commun dans nos sociétés? Qu'est-ce qui nous relie? Voilà. Eh bien, ce qui nous relie, je ne dis pas uniquement, exclusivement, mais enfin grandement, c'est la télévision. Et donc la télévision nous donne à tous un message, et ce message-là, d'une façon ou d'une autre, d'où les éléments que vous avez cités quant à la socialisation, au danger que cela peut avoir pour la société, d'où effectivement des remises en cause, me semble-t-il, de ce vivre ensemble que nous devons, d'une manière ou d'une autre, cultiver.
Mais alors, quand même, Damien Leguet, soyons un tout petit peu plus précis. Mm-hmm. En quoi la télé-réalité est-elle un danger, par exemple, pour l'équilibre de l'individu? Moi, par exemple, serais-je menacé dans mon équilibre par la télé-réalité?
Alors, c'est là où il faut distinguer, me semble-t-il, ce qui concerne les individus, hein, la capacité qu'ont les individus à pouvoir prendre ça à la légère, au premier degré, au deuxième degré, parce que ils ont chacun, enfin chacun a des références culturelles, des soucis, des éléments par ailleurs
oui,
qui
un
atténuent
bagage,
ceci.
Oui.
Voilà. Bon, donc ça, limite, on ne peut pas rentrer dans les cas particuliers de chacun, et c'est pas l'objet de mon livre. L'objet de mon livre, c'est de dire effectivement en quoi est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous dit la télé-réalité en particulier porte atteinte, d'une manière ou d'une autre, à ces modes de socialisation. Alors, prenons un cas simple, qui est de dire que, effectivement, la télé-réalité fait, d'une manière évidente, l'apologie de ce que l'on doit voir, du voyeurisme. On voit quelqu'un en face de soi, on croit que cet individu vous ressemble, et que nous dit cet individu? Il déballe, d'une manière ou d'une autre, sa vie, son existence, ses petits sentiments, voilà. Donc on est véritablement dans quelque chose qui est de l'ordre du nombrilisme. On regarde quelqu'un qui se regarde, voilà. Alors, est-ce qu'il a autre chose à dire que lui-même? Non.
Non.
Non. Pour des raisons qui tiennent au principe même de la télé-réalité, à savoir que la télé-réalité ne flatte pas le talent d'individus qui auraient qui saurait jouer du violon,
oui,
jouer,
oui,
etc., mais qui met ces individus les uns avec les autres. Donc, ils n'ont qu'eux-mêmes à apporter. Bon. Et donc, il y a bien, me semble-t-il, quelque chose comme une exaltation du nombrilisme, c'est-à-dire du fait de se raconter soi-même et, d'une certaine façon, deuxième élément, est exacerbé les conflits entre les personnes.
Mmh.
Une des leçons, me semble-t-il, que je tire, moi, de la télé-réalité, pour en avoir vu quand même beaucoup,
je vous plains,
si ce n'est trop, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas dans la recherche de la conciliation, nous ne sommes pas dans la recherche de ces liens d'amitié qui peuvent exister.
De la compréhension de l'autre.
Nous sommes toujours, parce qu'il y a spectacle, parce qu'il faut qu'il y ait spectacle, parce que quand on n'a rien à dire, les rebondissements sont la meilleure des choses pour faire avancer l'attention ou pour susciter l'attention du téléspectateur, on est donc dans la recherche perpétuelle du conflit. Du conflit, c'est-à-dire qu'il faut que je m'affirme au détriment de l'autre, et il faut que l'autre, d'une certaine façon, gagne du territoire sur moi. Voilà. Et ça, me semble-t-il, c'est oui. un élément constant de ça, toutes ces émissions-là.
Ça vous paraît comme une nouvelle morale, c'est-à-dire c'est la morale qu'on nous propose aujourd'hui dans voilà comment il faut vous comporter.
Alors,
c'est ça qui vous paraît un danger ?
C'est-à-dire que, si vous voulez, alors il faut le dire de deux façons différentes. La première, donc, c'est qu'on est bien dans du pédagogique. On nous dit bien des choses sur la façon de se comporter par défaut, parce que les autres ne nous le disent pas, ou parce que les autres, parce qu'on n'entend plus ce que dit l'école, ce que disent les parents, etc. Donc, toutes ces autorités naturelles-là qui existent de moins en moins. Donc, on est plus sensible à ce genre de messages-là. Première chose. Et deuxièmement, il faut bien voir et bien comprendre que cet accès à la célébrité, voilà, que ce quart d'heure de gloire dont parlait Andy Warhol, que cette scène médiatique, ce carré magique cathodique a un pouvoir de fascination et d'attraction absolument extraordinaire. Voilà. Donc, il y a là quelque chose comme un centre de gravité. Hein. Tout le monde regarde cette télévision et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, veut y passer comme un accomplissement personnel. Voilà. D'où, et là je rejoins ce que vous dites, d'où effectivement un élément de morale. La morale, c'est quoi ?
Mais
c'est
oui.
ce que l'on dit et les règles d'une manière ou d'une autre pour accéder à la gloire. Voilà. Alors, à la gloire, c'était peut-être autrefois d'être un saint, voilà. Mais maintenant, c'est de passer à la télévision.
L'un n'empêchant pas l'autre.
L'un n'empêchant pas l'autre, certainement.
Il y a encore déjà des saints aujourd'hui. Voilà,
peut-être,
c'était pour vous dire.
Petite
parenthèse.
À la télévision, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais enfin bon, disons qu'effectivement, nous sommes passés, on peut dire ça comme ça, d'une vision effectivement de l'accomplissement personnel par la charité, qui a été pendant très longtemps dans nos sociétés un idéal, à un idéal d'accomplissement par le cathodique. Voilà. Et ça, donc, ce qui veut dire que la télévision donne, d'une certaine façon, les clés pour entrer dans la télévision. Elle dit, voilà ce que je vous demande si vous voulez entrer dans ce cercle magique de la télévision. Voilà. Et donc, c'est pour ça, excusez-moi d'être un peu long sur les préalables, mais c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que, effectivement, on peut toujours considérer que ce n'est rien et qu'il ne faut pas la regarder, mais comme on la regarde beaucoup et comme il n'y a pas beaucoup de contrepoids, le message qui est dit est un message qui laisse à supposer que pour effectivement entrer dans ce cercle de notoriété, il importe de se comporter comme les gens se comportent à la télévision. Voilà. Et donc tous les défauts entre guillemets que l'on peut reconnaître dans ce bocal cathodique que l'on regarde, dans ce petit miroir que l'on regarde avec une loupe, que tous ces défauts-là sont autant de clés d'entrée, de modes de comportement. Voilà.
Voilà. Alors je vais lire en effet un petit passage qui résume tout à fait ce que vous venez de dire, un passage de votre livre qui s'intitule, je le rappelle, « L'Empire de la télé-réalité » par Damien Leguay. Autrefois, diraient les grincheux du pôle républicain, nous avions une morale républicaine. Les enfants l'apprenaient par cœur avant d'entamer les grandes leçons d'histoire ou de géographie. Maintenant, nous avons une morale édictée par ces usines qui produisent des images télé que les enfants apprennent par les yeux le soir avant d'aller se coucher. Toutes les deux sont des morales. La première formait le citoyen. Elle était positive, éducative et retrouvait, nous dit Charles Péguy, le vieux fond de la morale chrétienne. La seconde incite à un relâchement arrogant. Il faut absolument se lâcher, rigoler comme des gamins, se laisser aller, s'exprimer, se dire, affirmer son talent, défendre son ego et laisser ses émotions prendre le dessus. Relâchement des liens entre individus, des contraintes sociales, de la parole donnée, des comportements et des devoirs. Il nous faut donc ici, dans ces pages, celles de votre livre, comprendre ce catéchisme cathodique. C'est véritablement ce que vous démontrez dans ce livre.
Oui, mais disons que un catéchisme, c'est quoi ? Un catéchisme, c'est une loi, un code, une manière d'entrer dans ce qui est considéré comme la bonne façon de faire. Voilà. C'est ça le catéchisme. Bon. Alors, il y avait le catéchisme
de l'Église chrétienne, oui.
Voilà, qui a toujours existé, et qui donc permettait de se conformer, d'essayer autant que faire se peut, d'accéder à ce qui était prescrit. Bon, là, il me semble effectivement que ce qui est valorisé, c'est ça le catéchisme. Le catéchisme, c'est ce qui valorise un comportement. Voilà. La morale, c'est ce qui valorise un comportement. Il faut être comme ça. Il faut que, autant que faire se peut, vos gestes et vos paroles ressemblent à cela. Voilà. Et s'il y a un décalage entre l'idéal et puis ce que vous faites, eh bien, à ce moment-là, vous êtes, d'une manière ou d'une autre, en faute.
Voilà,
en décalage. Voilà. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce qui nous est montré ? C'est justement cela. Donc je dis bien que la société, que la télévision, que le cathodique, voilà, a une morale en ceci qu'il valorise des comportements au détriment d'autres. Voilà. Pourquoi est-ce que des enfants qui passent 10 heures par jour à se préparer à un concours de violon ne sont pas visibles ?
Oui, on pourrait les montrer, oui.
Pourquoi est-ce que des gamins qui passent des journées même à faire du théâtre et à essayer autant que faire se peut d'être en représentation sur une scène ne sont pas visibles? Voilà. Tous ces gens qui ne sont pas visibles ne sont pas valorisés. Et qu'est-ce qui est valorisé? C'est effectivement ces individus qui se, comme il a été indiqué, qui se lâchent, qui se relâchent, qui ne se tiennent plus. Voilà, c'est ça, je crois, l'élément central, c'est qu'ils ne se tiennent plus. C'est qu'on n'est plus dans la politesse. Hein, la politesse, c'est bien cet élément qui, d'une manière ou d'une autre, permet
de se tenir, de se polir soi-même,
d'être moins rugueux, d'apprendre des normes de comportement. Et Adorno, que je cite dans mon livre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voyez bien qu'il y avait cette montée, d'une certaine façon, de l'incivilité, de l'impolitesse, et disait que, pour lui, et je crois qu'il a absolument raison, derrière cette absence de politesse, ce refus de politesse, il y a une brutalité qui est encore plus grande. Il y a une brutalité des comportements, une brutalité d'une manière d'être les uns avec les autres qui est encore plus grande. Et cette brutalité-là, me semble-t-il, cette façon agressive, non tenue...
D'être à autrui.
Voilà, dans les rapports à autrui, qui, d'une manière ou d'une autre, sont valorisés par...
La télé-réalité.
Voilà, par la télé-réalité et donc, d'une certaine façon, par défaut, par la société.
Alors, revenons, Damien Leguet, sur la télé-réalité et surtout sur le mot « réalité ». Cette télé-réalité nous montre-t-elle une vraie réalité ou nous montre-t-elle une fausse réalité ?
Alors, je crois qu'il y a deux façons de répondre à la question. La première, c'est effectivement le slogan, le label de la télé-réalité, c'est de dire « on vous a montré de la fiction autrefois, on vous a montré des choses fausses, maintenant on va vous montrer du vrai ». Et des gens vrais qui sont vus vraiment sans être tenus, etc. Bon. Alors, ça, on peut dire qu'une certaine façon, c'est de la télé-réalité, c'est ça la télé-réalité. Bon. Mais quand on creuse un tout petit peu la question, on se rend bien compte que tous les individus qui sont choisis ne le sont pas par panel, hein, au sens, par un sondage, bon, mais ils sont typés, ils sont normés. Et plus ils sont potentiellement en conflit les uns avec les autres, plus ils seront choisis. Donc vous avez dans ces émissions-là des stéréotypes. Voilà, c'est-à-dire le beurre, la bimbo blonde et bête, la fille agressive et Marie couche-toi là, le type, voilà.
Et donc ils rentrent dans des schémas, dans des moules prédéfinis.
Vous avez des moules, des stéréotypes qui sont effectivement prédéfinis, d'une part, et les Français qui ne sont pas aussi bêtes que ce que
la
télévision voudrait croire, se sont bien rendus compte qu'effectivement, et les sondages sont là pour le montrer, que toutes ces émissions-là sont d'une manière ou d'une autre bidonnées.
Oui, voilà. Mais j'ai lu des chiffres dans votre livre, en effet, que 86%, je crois, voilà, des Français reconnaissent que ce n'est pas la réalité.
Voilà,
et en fait, ils la regardent, mais ils savent que ce n'est pas la vérité ou la réalité.
Voilà. Enfin, la vérité, ils savent qu'effectivement, ces gens qui nous sont présentés là ont été choisis justement pour leur qualité d'exhibitionnisme et pour leur qualité de conflits potentiels les uns avec les autres. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, on met ensemble, comme comme un jeu de jeunes coqs, enfin voilà, on met ensemble des individus sachant pertinemment que ceux-ci vont rentrer en conflit. Et donc, alors ça c'est le premier élément, me semble-t-il, de la réponse. Mais alors, deuxième élément, si on va un tout petit peu plus avant, c'est de dire qu'effectivement, qu'est-ce que la réalité ? Voilà. Et dans mon livre, on pourra le développer si vous voulez, mais dans mon livre, j'essaye de mettre en évidence qu'il y a effectivement une crise.
Crise de la réalité. Oui, c'est voilà. Toute la deuxième partie de votre livre qui analyse cette crise de la réalité. C'est assez philosophique, c'est-à-dire la réalité devient une illusion finalement.
C'est-à-dire que nous sommes toujours, nous humains, enfin nous sommes toujours dans une réalité qui est construite. Voilà. La réalité, nous avons des mots pour la comprendre, nous avons des sentiments pour la comprendre, nous avons une culture pour comprendre ce que nous voyons et ce que nous vivons. Donc, il y a bien toujours un travail de construction de ce qui est et qui nous permet de mieux comprendre. Je suis amoureux, ou du moins, je fais rejoindre des pulsions sexuelles, disons, avec une attirance pour quelqu'un d'autre, eu égard à d'une certaine façon, les lectures que j'ai pu avoir et l'apprentissage du sentiment amoureux que j'ai pu avoir dans Le Rouge et le Noir, par exemple. Bon. Donc, il y a bien quelque chose qui est construit.
Vous dites, d'ailleurs, je vous cite, là, j'ai noté cette phrase, « Il n'y a plus de faits, il n'y a rien que des interprétations. »
Alors, ça, effectivement, c'est pas de moi, c'est de Nietzsche. Donc, cette idée que nous ne sommes plus dans le fait, mais dans l'interprétation, c'est une idée qui s'est progressivement imposée à partir du 9e siècle et qui nous a conduit à cette déconstruction dont on parle. Il n'y a plus de faits, il n'y a que des interprétations. Et donc, comme on n'est que dans l'interprétation, d'une certaine façon, il n'y a plus de réalité. Voilà. Et il m'a semblé que dans cette télé-réalité, il y avait donc cette crise de la réalité, à savoir que on peut opposer ce que je fais dans mon livre, on peut prendre d'autres mots, mais enfin, disons, on peut opposer le réel qui est, d'une certaine façon, un élément de construction de la réalité, à la réalité qui serait une matière brute, hein, qui serait, disons, des briques non assemblées, voilà, des briques du réel non assemblées. Bon. Eh bien, effectivement, de plus en plus, ayant sous les yeux des jeunes gens qui ne se tiennent pas, hein, qui n'ont pas autre chose à dire qu'eux-mêmes, qui sont donc, d'une certaine façon, en auto-affirmation d'eux-mêmes, au détriment des autres, on peut dire, mais à contrario de ce que dit la télé-réalité, on peut dire qu'il y a bien là une forme de réel déconstruit, hein, de réel qui ne cherche rien d'autre qu'à montrer qu'il existe, qu'il s'est lâché, relâché, c'est-à-dire qu'il n'est plus tenu, hein, et il n'est plus tenu par la politesse, par le récit, par... Voilà. Et il y a une très belle citation de Rémi Brague, quand il parle de la culture, qui dit « Qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est une barbarie à soumettre et un classicisme à imiter. » Voilà. C'est ça qui, nous, d'une manière ou d'une autre, nous donne envie d'être nous-mêmes. Voilà. Eh bien, ce travail de maîtrise et d'imitation, de maîtrise de la barbarie qui est en nous, hein, matière brute bien qui sûr, fait oui. qu'on est agressif, qu'on peut spontanément... taper quelqu'un, ou que si on voit une jolie fille dans la rue, on peut tout de suite ne plus retenir ses pulsions. Donc ce travail de maîtrise, d'une part, et de classicisme à imiter, il est effectivement en relâchement, et dans la télé-réalité, nous voyons bien que nous sommes là, d'une certaine façon, au bout, dans une vision manifeste de ce relâchement-là.
Je vous propose une courte pause, et nous nous retrouvons tout de suite après. Damien Le Guay, il y a aussi une autre réflexion que vous entamez dans cet ouvrage « L'Empire de la télé-réalité ». Vous faites référence à ce qu'avait dénoncé Marcel Gauchet, c'est-à-dire une dynamique individualiste. Alors cette dynamique individualiste, où chacun n'est plus que lui-même, génère-t-elle, à votre avis, une nouvelle conception de l'homme, une nouvelle anthropologie ?
Alors, ça c'est une question effectivement qui est un peu en filigrane de mon livre, et je pense qu'il vaut mieux essayer de poser la question et d'essayer d'apporter des éléments de réponse.
Oui, on ne peut pas répondre à tout.
Voilà, c'est un sujet qui est effectivement compliqué, c'est-à-dire une nouvelle anthropologie supposerait qu'on ait effectivement sorti d'une anthropologie ancienne pour rentrer dans une nouvelle. Moi je crois effectivement, avec d'autres, que nous sommes dans un élément de basculement. Enfin, alors il y a deux basculements. Le premier basculement, et qui se voit dans la télé-réalité, le premier basculement, c'est que, d'une certaine façon, et là, je suis tocquevillien de ce point de vue-là, nous sommes toujours dans cette continuité de l'égalité, du travail de l'égalité qui rabote, qui fait en sorte que le souci d'être le plus semblable à l'autre, de désirer ce que l'autre désire, de lorgner et de regarder ce qu'il a. Bref, ce travail d'unification de l'égalité est à l'œuvre, et d'une certaine façon, pour éviter qu'il y ait des distinctions, des séparations, de l'arrogance, etc. Donc, il importe, ce qu'on voit dans la télé-réalité, de laisser les individus comme ça ensemble. Bon. Donc, d'une certaine façon, cet être démocratique, qui ne veut plus être tenu, qui ne veut plus être dans la distance, mais qui veut être dans la proximité, laisse à supposer qu'effectivement, et c'est ce que nous constatons par ailleurs, il y a une crise manifeste de tout ce qui concerne la reproduction culturelle. La culture est considérée par certains comme inégalitaire. Elle instaure des inégalités entre nous, elle va à l'encontre donc de l'égalité, et donc
il faut la contester. Et la détruire.
Il faut la contester, et donc, quand on a des individus qui n'ont rien à dire qu'eux-mêmes,
oui,
et qui se regardent le nombril, il n'y a plus d'inégalité. Parce qu'une certaine façon,
tout le monde est ramené au même niveau.
Voilà, chacun a son nombril, et donc chacun peut en parler, et chacun peut, de manière ou d'une autre, par ses pulsions primitives, conquérir un territoire qui est censé être commun. Donc ça, c'est le premier élément, si vous voulez, de basculement, et qui se manifeste là-dedans. Donc il n'y a plus d'élément de culture, il y a juste un élément d'affirmation de soi. La deuxième réponse, que l'on peut faire, et là je m'appuie en particulier sur un psychanalyste qui s'appelle Charles Mellman, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, c'est qu'effectivement, nous constatons, depuis plusieurs années, nous constatons que, disons, les éléments de dépression, de l'impuissance psychique, une forme d'impuissance psychique est de plus en plus reconnue comme étant un syndrome moderne. Voilà. Donc les éléments de dépression, si vous voulez. Voilà. Donc de plus en plus, les individus modernes ou post-modernes n'arrivent plus à faire face à la charge de responsabilité qui est la leur. Bon, ils doivent se déterminer par eux-mêmes, ils ne veulent plus faire appel à des références extérieures, les éléments de transcendance, d'une manière ou d'une autre, semblent aller à l'encontre de ce qu'il est. Donc, il est de plus en plus puissant, parce que maître de lui-même...
Mais écrasé.
Et écrasé, et donc de plus en plus impuissant psychiquement. Et donc, cette impuissance psychique qui est la sienne, ses inhibitions, ses éléments de fatigue psychique, par exemple un sociologue comme Alain Ehrenberg a bien étudié ces points-là, et donc d'inhibition, tous ces éléments-là font que, d'une certaine façon, il est impuissant de sa toute-puissance. Voilà. Et alors, c'est là où on rejoint ce que dit Mellman, et c'est là où on se pose la question de savoir est-ce qu'on est en train de basculer vers autre chose. Et la télé-réalité nous le montre parfaitement. C'est effectivement quand on se dit, mais voilà, il y avait un modèle psychique, ancien, disons, qui était celui de la frustration, du désir. Tu ne dois pas, non, pas maintenant, tu dois attendre... qui permettait d'une manière ou d'une autre d'apprendre le désir. Le désir, c'est quoi ? C'est ce qui nous manque et que nous voulons. Voilà. C'est la distance. Le désir, le principe du désir, c'est la distance. Bon. Et bien, d'une certaine façon, nous sommes rentrés dans une logique qui est peut-être une logique, nous dit Mellman, psychique de consommation. C'est-à-dire qu'il importe que j'ai toujours en face de moi un objet que je peux consommer, quelque chose qui rentre dans la logique de la consommation et qui fait que, d'une certaine façon, je passe d'un désir, je ne sais pas, d'un appétit, hein, d'un appétit à l'autre. Et que, c'est ce que Melman appelle une forme de nouvelle économie psychique, hein, qui laisserait supposer que je suis toujours dans une consommation qui n'a plus de limite, qui n'est plus réfrénée. Voilà. Et cette logique, et c'est là où on rejoint ce que dit Marcel Gauchet, cette logique de consommation, qui est une logique de marché, hein, je suis toujours dans la consommation d'objets qui, d'une certaine façon, répondent à mon désir, tout en l'épuisant pour partie et tout en lui donnant un goût d'insatisfaction qui me fait aller au-delà de ma consommation d'aujourd'hui pour aller vers un autre objet qui lui-même, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on est dans cette logique-là. Et donc, ce que dit Gauchet, c'est que, effectivement, nous sommes là, pleinement, dans une logique de marché qui aurait été intégrée d'une manière ou d'une autre dans notre manière
psychisme,
d'être,
dans notre psychisme. Voilà. Donc c'est une nouvelle, voilà. Un nouveau comportement et humain.
Voilà, donc la question c'est de savoir, est-ce que, un, la démocratie, deux, le désir qui n'est plus un désir, mais qui est
un besoin
de consommation, l'absence effectivement de référent, etc., fait que la question qu'on peut se poser, et elle est ouverte, hein, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de basculer dans autre chose? Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il faut peut-être que nos auditeurs comprennent bien pourquoi j'en parle. C'est qu'effectivement, un des éléments de la télé-réalité, un des aspects, j'en distingue 3-4, mais un des aspects de la télé-réalité, c'est tout ce qui concerne, par exemple, la chanson, comme Star Academy, hein, pour prendre cet exemple-là. Et dans cet exemple de la Star Academy, on voit bien que nous sommes dans une logique qui est une logique de promotion. Je me mets moi-même en avant, ça c'est de la promotion personnelle, mais je mets aussi en avant des objets, je mets aussi en avant des chansons, donc je suis toujours dans quelque chose qui... Je mets en avant... Je fais de la promotion d'opposition ou de rivalité que j'ai les uns avec les autres, bref. Et donc, la question qui se pose, et c'est le sous-titre de mon livre, hein, la belle citation de Monsieur Lelay.
Voilà, comment accroître le temps de cerveau humain disponible. Voilà. Alors, la citation de Monsieur Lelay, là, on peut la rappeler. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du spectateur soit disponible. Nos émissions ont pour fonction de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Voilà.
Cette phrase a tout de même été relevée.
Oui, elle a été relevée, et je ne suis pas le seul à l'avoir relevée, mais il me semble bien qu'on est là dans, effectivement, cette logique marchande. Voilà, cette logique marchande, ça veut dire qu'il n'y a plus d'écart. Monsieur Lelay, comme un grand maître d'école du nouveau catéchisme catholique, nous indique clairement qu'effectivement, lui, il est là pour nous préparer par avance à accepter une logique publicitaire, marchande,
hein,
qui n'est plus en décalage par rapport à ce que nous sommes.
Qui va être intériorisé par nous.
Exactement,
voilà, absolument.
Qui va être intériorisé par nous.
D'ailleurs,
voilà.
Une des règles de la télé-réalité que vous développez dans votre ouvrage, Damien Leguet, vous le terminez par une longue réflexion alors sur une question qui est aussi importante que celle que vous venez d'aborder. Quel nouveau sacré sommes-nous en train d'inventer? C'est-à-dire, y a-t-il un déplacement du sacré? Qu'est-ce qui devient sacré pour nous maintenant, aujourd'hui?
Ben, si vous voulez, moi, je voudrais bien que nos auditeurs comprennent bien que là, on a un peu essayé de voir quelles sont les conclusions que j'en tire. Mais dans mon livre, il est question avant tout, essentiellement, même s'il y a un élément de mise en perspective, hein, donc de la télé-réalité, des émissions de télé-réalité. Mais c'est vrai que nous avons vu un des éléments de cette télé-réalité, donc à savoir le conflit, hein, qui est présent. Nous avons vu effectivement le deuxième aspect qui est celui de la marchandisation.
Si on intériorisée,
voilà,
on est là.
Qui
oui.
est intériorisée et Star Academy et les autres. Bon. Et puis un troisième élément, et c'est pour ça qu'on va arriver sur la notion de sacré. Il y a un troisième élément qui est très important et qui est un peu dans le même ordre, qui est celui du désir interpersonnel, enfin des hommes et des femmes. Vous avez L'île de la Tentation, Marjolaine et les Millionnaires, etc., etc. Toutes ces émissions-là, d'une certaine façon, laissent à supposer que le Bachelor, hein, pour ne pas le citer, laissent à supposer que le mâle dominant a devant lui un cheptel de donzelles qui ne demande qu'à recevoir les bonnes grâces du dit mâle dominant. Et donc là, il y a quelque chose, effectivement, me semble-t-il, dans les éléments de morale dont on parle, d'extrêmement régressif quant à l'idée que l'on s'est faite dans notre culture des rapports hommes-femmes, du respect que l'on doit que l'on se doit d'avoir les uns avec les autres.
On revient en arrière, là, oui.
Bah, il me semble que c'est un élément, effectivement, qui est extrêmement visible et qui est extrêmement dégradant ou rétrograde, enfin, si on veut, quant aux relations des hommes avec les femmes. Parce que on est bien, effectivement, dans une vision de femmes à disposition, hein, et qui, d'une certaine façon, sont emplies d'un désir qui ne peut être assouvi que par un homme qui, lui, à sa seule discrétion, peut appeler celle-ci plutôt que celle-là. Donc, effectivement, ça c'est comme un élément de morale, déjà je le développe dans mon livre, mais c'est un élément de morale qui me semble être extrêmement important et extrêmement grave.
Pervers, pour ne pas dire pervers, d'une certaine façon.
Extrêmement grave, parce qu'effectivement, il met en évidence des rapports humains, il valorise donc des rapports humains qui sont sur le mode, effectivement, du machisme, enfin, pour le dire simplement, mais donc de cette infériorité de la femme par rapport à l'homme. Nous ne sommes pas dans l'univers des troubadours, si on veut, enfin voilà, où nous ne sommes pas dans l'univers du respect et de l'égalité, nous sommes dans l'univers de l'inégalité et de la disposition.
Et voilà. De la domination, oui, absolument.
Et de la domination. Et ça, c'est un élément, voilà. Et donc, pour revenir, excusez-moi, j'ai fait une petite digression, mais à votre question sur le sacré, la question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que, à force de considérer, disons depuis Nietzsche, mais enfin pour faire simple, mais qu'il n'y a pas d'arrière-monde, qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'y a que des interprétations, qu'effectivement, avec le phénomène de l'égalité, nous sommes tous à égalité les uns avec les autres, ça veut dire que nous sommes plus en rivalité personnelle plutôt que nous sommes en référence avec une transcendance ou avec machin, alors même que nous connaissons effectivement ces crise de reproduction qui sont les nôtres, alors que nous connaissons, et je m'en réfère à Hannah Arendt, une crise de la culture, au sens où j'aurais besoin, ce qui est le code classique de la culture, j'aurais besoin de récits, d'imaginaires, d'auteurs anciens à admirer, non pas pour être ficelé, non pas pour être servile, mais pour justement aller de l'avant et me construire tel que je dois être ou tel que je peux être, à la fois libre et dans cette domination de ma barbarie et dans ce classicisme à imiter dont on parlait. Bref, tous ces éléments-là convergent pour effectivement se demander si nous ne sommes pas dans, maintenant, une forme de sacralisation, enfin, de sacralisation désacralisée, enfin, dans quelque chose de cet ordre-là qui valorise un univers qui effectivement n'a plus d'épaisseur, enfin ne renvoie plus rien à autre chose que lui-même. On peut dire que d'une certaine façon, notre nouveau sacré, il n'est pas dans l'icône, hein, enfin l'icône au sens de Jean-Luc Marion, c'est-à-dire l'icône, c'est ce qui renvoie à autre chose que lui-même. Nous ne sommes pas dans l'image, c'est-à-dire dans ce que Marie-Josée Manzin caractérise comme une réserve de visible qui est derrière ce que nous voyons, mais notre nouveau sacré serait un miroir.
Tout simplement. Oui. Alors je voudrais en effet, Damien Le Guay, citer encore un passage de votre livre dans ce sens. Vous dites « Nous retrouvons dans l'imaginaire médiatique des ersatz religieux, des sous-produits à vénérer, des pratiques cultuelles, des habits liturgiques, des grands messes, des prêtres et un foisonnement de croyances spirituelles. Dès lors, les images produites à jet continu par l'industrie de la télé-réalité sont en droite ligne avec le souci d'une modernité définie par Charles Baudelaire comme le transitoire, le fugitif, le contingent. Mais il ajoutait aussitôt que cette modernité voilà. n'était que la moitié de l'art, l'autre moitié est l'éternel et l'immuable.
Voilà.
Et vous dites aussi que, indéniablement, notre époque aime à réinventer du « sacré », entre guillemets, d'une autre nature que le sacré religieux. Ce dernier, ancien et ancestral, est considéré comme ringard, alors que le sacré, par la mode, le sacré fugitif, est plus moderne, plus vendeur, au double sens de ce qui est dans l'air du temps et peut devenir une marchandise. D'où, dans l'univers médiatique, une sorte de saturation des gens « people », des stars, des gens en vue, ces idoles, nous pouvons les admirer de loin, les écouter de loin, les approcher avec, entre guillemets, stupeur et tremblement. Cet espace-là, celui des gens people, est un espace sacré. Il est à la fois lointain et proche. Il cultive cette distance et cette impossible proximité. Ces gens appartiennent à un autre monde. Et par la presse people, le bon peuple, les simples mortels, peuvent se tenir informés et avoir des nouvelles de l'Olympe moderne.
Je crois qu'effectivement, si vous voulez, il y a à la fois un élément de parodie. C'est-à-dire qu'on est quand même dans du liturgique, etc., donc dans la parodie de sacré, d'une part. Deuxièmement, Baudelaire, qui est un magnifique auteur pour beaucoup de raisons, indiquait bien effectivement qu'il y avait à la fois dans la mode une part de fugitif, mais aussi dans le beau un élément d'éternel. Cet élément d'éternel-là disparaît progressivement. Et donc, comme il ne reste plus que ce monde-là, sans arrière-monde, sans arrière...
Sans au-delà, oui.
Sans au-delà, ni en deçà, ni en dessous, ni etc. Nous sommes sur un instant, d'une manière qui n'a ni futur, ni passé. Donc, nous vivons dans cet instant seul. Eh bien, il importe, d'une manière ou d'une autre, de recréer quoi ? Du sacré, donc de la distance. Et le fait d'avoir, et je le constate, je le déplore aussi, mais je le constate, d'avoir un développement de cette presse people, ça veut dire d'avoir, d'une certaine façon, l'idée que ces gens-là sont d'ailleurs...
Voilà, sont autres, sont d'un autre monde que le nôtre.
Voilà, sont d'un autre monde que le nôtre, et qu'on peut les admirer, même si...
L'illusion de les approcher.
Voilà, d'avoir l'illusion de les approcher, c'est, me semble-t-il, une manière de recréer
un sacré
galvaudé, un sacré immédiat, un sacré du présent sur le présent lui-même, hein. Mais qui, d'une certaine façon, nous enferme encore plus dans ce présent-là. Et donc la question que je pose sur le sacré, et que je pose de manière d'une autre sur, pour la télé-réalité, c'est la question de l'imaginaire. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine façon, nous avons abdiqué un imaginaire qui nous échapperait ? En ceci que l'imaginaire, c'est à la fois ce de quoi nous héritons, c'est ça la culture, à la fois ce de quoi nous héritons et à la fois ce qui ne nous appartient pas, ce que nous cultivons par nous-mêmes et ce que nous transmettons. Voilà. Cet imaginaire-là, est-ce que nous ne l'avons pas abdiqué au profit de quoi ? Du présent, de la presse people, de ces scènes nombrilistes que nous constatons dans la télé-réalité, au profit d'une certaine façon de cette complaisance à l'égard de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, hein, d'un nous-mêmes nombriliste, qui nous renverrait toujours qu'à nous-mêmes. Et je crois qu'il y a effectivement des sociologues, hein, comme par exemple Lipovetsky, pour ne pas le citer, qui pensent qu'il y a là, dans cette apologie de la mode, du fugitif, de l'instantané, qu'il y a là un élément, un paroxysme de liberté de l'individu. Moi, il me semble, et Alain Finkielkraut partage effectivement ce point de vue-là, qu'il y a dans cette apologie de la mode, au détriment, pour reprendre ce que disait Baudelaire, de l'éternel, il y a justement un enfermement dans un présent tautologique, hein, qui ne renvoie qu'à lui-même et qui, d'une certaine façon, empêche l'individu d'avoir par lui-même avec des référents qui lui échappent et qui lui permettent de le structurer, d'avoir ce travail de l'imaginaire, cette rêverie dont parlait Bachelard, qui nous permet effectivement de se construire soi-même indépendamment du flux que nous avons. Et je crois, et puis j'en terminerai là-dessus, mais je crois qu'il y a effectivement une opposition fondamentale que nous devons garder à l'esprit entre le récit qui construit et le flux qui nous traverse. Alors le récit qui construit, c'est la culture, hein, c'est le roman, c'est l'imaginaire qui est à la fois extérieur à nous et à la fois nous. Voilà. Eh bien, que voyons-nous dans la télé-réalité ? Qu'est-ce que la télé-réalité ? Qu'est-ce que le cathodique ? De plus en plus, un flux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, finalement, on ne sait plus ce que cette télé-réalité dit. On ne sait plus ce qu'elle raconte, parce qu'elle ne raconte rien. Et que, bien malin, celui qui pourrait, sur 150 heures d'émission pour une seule catégorie, bien malin, celui qui pourrait dire ce qui s'y est passé. Parce que
il ne se passe rien, voilà.
Parce qu'il ne se passe rien, voilà. Il se passe rien, et ce rien est un flux qui nous traverse et qui, de cette façon, emplit quelque chose, mais sans nous donner les éléments de construction de soi. Et comment est-ce qu'on se construit soi-même ? On ne se construit, me semble-t-il, mais peut-être suis-je un ringard et un dinosaure, on se construit uniquement, me semble-t-il, par le récit. Par le récit, Bettelheim parlait, lui, pour les enfants, des contes de fées.
Contes, bah oui,
mais
oui.
Les contes de fées, le récit, le romanesque, ce qui vous donne une intelligibilité de soi-même grâce à des récits que l'on porte et que l'on peut raconter à d'autres.
Damien Le Guay, nous arrivons à la fin de cette émission et pour terminer, je voudrais lire encore un petit passage de votre conclusion parce que dans votre ouvrage donc sur la télé-réalité, vous posez la question finalement dans tout ça, quel type d'humanité voulons-nous ? Il nous faut choisir, savoir sur quoi nous voulons insister et ne pas laisser la force des choses, l'irrésistible poussée des désirs marchandisés et ce sentiment diffus de la fatalité le faire à notre place. Après tout, ne sommes-nous pas, depuis que ce principe fut installé dans notre substrat judéo-chrétien par le prophète Ézéchiel, ne sommes-nous pas sous le régime de la responsabilité personnel, responsable de notre existence et du monde dans lequel nous vivons. Donc si nous voulons que la télé-réalité s'amplifie encore, bien on n'a qu'à le dire, et sinon, effectivement, on peut réagir. Parce que finalement, cette morale engendrera forcément une contre-morale qui nous laissera sans doute une liberté. La morale officielle, celle qui est proposée par la télé-réalité, on n'est pas obligé de l'accepter.
Alors, non seulement on n'est pas obligé de l'accepter, on peut en constater effectivement les dégâts, mais il me semble effectivement que ce qui nous est présenté, le flux, la morale de flux qui nous a présenté, si on veut, elle est plutôt de l'ordre, elle est plutôt comme conséquence de désagréger le ciment social, hein, de nous laisser seuls face à ce qui nous traverse sans nous habiter. Bon, et la question qui se pose, c'est de dire, soit il y aura d'une manière ou d'une autre, historiquement, je ne sais pas quand, mais un retour de bâton, c'est ce que dit par exemple Charmelman, qui laisse à supposer qu'on ne peut pas vivre ensemble atomiquement sans être lié avec quelque chose. Donc plus on sera atomique, hein, plus on sera des atomes, les séparés les uns des autres, plus le ciment social disparaîtra au profit de la guerre de tous contre tous. Bon, donc soit effectivement nous serons d'une manière ou d'une autre, comme élément dans un retour de bâton de l'ordre de l'autorité, qui peut prendre les formes que nous avons connues au XXe siècle,
mais pourquoi pas,
malheureusement, qui peut arriver, soit effectivement nous allons de plus en plus vers un élément de détricotage de la civilité telle que nous l'avons connue, avec toujours, alors à ce moment-là, c'est le deuxième modèle, si on veut, enfin, avec l'idée de la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est l'argent. Et c'est finalement la marchandise, l'argent, qui pourrait être le nouvel élément, contrairement à ce qui a été toujours, d'une manière ou d'une autre, notre signe de distinction, à savoir la culture qui nous reliait les uns les autres.
Avec Damien Leguet, notre invité, que je remercie, nous avons donc évoqué la télé-réalité, mais aussi beaucoup de questions de philosophie, de morale, de construction de l'individu et de la société. Je rappelle le titre de votre livre, Damien Leguet, L'Empire de la télé-réalité, aux presses de la Renaissance. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet et j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt sur l'antenne de Canal Académie.
Merci.